Laudetur Jesus Christus.
Le cardinal Pell libéré en Australie, la haute cour a cassé le verdict de la cour d'appel qui avait reconnu coupable le cardinal de violences sexuelles sur mineurs. Les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 se font de plus en plus sentir dans les différents pays. La crise qui va en découler pourrait même être plus violente que celle de 2008, notamment aux États-Unis. Violence à Abidjan, en Côte d'Ivoire, autour d'un poste médical avancé installé pour affronter l'épidémie. À l'origine de ces heurts, une fausse rumeur, preuve de la difficulté de lutter contre la pandémie. Enfin, les catholiques d'Hong Kong se préparent à célébrer Pâques, mais chacun chez soi. Les prêtres du territoire mettent en place des initiatives pour faire vivre cette Semaine Sainte.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
La condamnation du cardinal Pell pour violence sexuelle sur mineurs cassée donc par la haute cour d'Australie. Les juges estiment que les preuves n'ont pas établi la culpabilité selon le niveau de preuve requis. Dans un communiqué diffusé par la salle de presse de Saint-Siège qui réaffirme avoir toujours eu confiance dans l'autorité judiciaire australienne, accueille avec faveur la sentence unanime prononcée par la haute cour. Le Saint-Siège rappelle que le cardinal Pell, en s'en remettant au jugement de la magistrature, a toujours affirmé sa propre innocence en attendant que la vérité soit vérifiée. Par ailleurs, à cette occasion, le Saint-Siège réaffirme son engagement à prévenir et à poursuivre tout abus vis-à-vis des mineurs. Au terme de cette bataille juridique, donc, qui a duré plusieurs années, la haute cour australienne a donc ordonné la libération immédiate du cardinal incarcéré depuis février 2019. George Pell a donc quitté le centre de détention et a été accueilli dans un monastère de Melbourne. Les précisions de Cyprien Viette.
Le cardinal Pell a publié une déclaration après l'énoncé de la haute cour. Il répète qu'il a constamment affirmé son innocence et que l'injustice dont il a été victime a été réparée aujourd'hui. S'adressant à la personne qui a porté les accusations contre lui, le cardinal Pell a déclaré « Je n'ai aucune rancœur envers l'accusateur ». Et en pensant à ceux qui pourraient ressentir de la douleur et de l'amertume, il a ajouté qu'il ne souhaitait pas que son acquittement soit une douleur supplémentaire. « La base de la guérison à long terme », a-t-il poursuivi, « et la vérité est la seule base de la justice et la vérité, car la justice signifie la vérité pour tous ». Au nom de la Conférence épiscopale australienne, son président, Mgr Mark Coleridge, reconnaît les sentiments mitigés que provoquera l'acquittement du cardinal. L'issue d'aujourd'hui sera accueillie favorablement par ceux qui croient en l'innocence du cardinal et dévastatrice pour les autres. Beaucoup ont souffert au cours de ce procès qui est maintenant arrivé à son terme, a déclaré l'archevêque. Mgr Coleridge renouvelle l'engagement indéfectible de l'Église en faveur de la sécurité des enfants et d'une réponse juste et compatissante aux survivants et aux victimes d'abus sexuels sur mineurs.
Cyprien Viette. Le cyclone Harold a continué sa progression dans l'archipel du Vanuatu à l'est de la Nouvelle-Calédonie. Luganville, la deuxième ville du pays, a été dévastée par les vents violents qui ont soufflé à plus de 200 km par heure. Des bâtiments ont été détruits, des inondations ont eu lieu. Aucune nouvelle concernant d'éventuelles victimes humaines. Boris Johnson en soins intensifs. Le Premier ministre britannique, atteint du Covid-19, avait été hospitalisé dimanche soir à Londres. Son état de santé s'est subitement dégradé dans l'après-midi. Le gouvernement a précisé ce matin qu'il n'était pas placé sous aspirateur. C'est le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, qui assure l'intérim. La sortie de l'épidémie n'est pas une ligne droite. En Espagne, le bilan des décès quotidiens est reparti à la hausse aujourd'hui après 3 jours de baisse. 743 personnes sont mortes au cours des 24 dernières heures contre 637 hier. La pandémie ravage les États-Unis qui en sont devenus le nouvel épicentre mondial. Le dernier bilan fait état de plus de 10 000 morts et cette semaine devrait être particulièrement difficile, a prévenu le président américain. Du point de vue économique aussi, les conséquences sont importantes. Outre un système de santé inégalitaire et sous pression qui affronte au quotidien des milliers de cas, le chômage explose dans le pays. Les experts tablent même sur 30% d'ici le pic de l'épidémie et les faillites d'entreprises se multiplient. Nicole Bacharan, politologue franco-américaine, chercheuse à Sciences Po Paris, nous explique en quoi cette crise est plus grave, notamment, que celle de 2008.
Il y a des entreprises qui vont fermer. On attend aussi une crise financière. La bourse continue à plonger. Le chômage qui, aux États-Unis, était à 3,5%, on s'attend à ce qu'il monte à 30%. Il y a des ressources dans l'économie américaine. Mais comment va se faire la transition de cette fermeture progressive qui va devenir générale à la réouverture? Ça, réellement, personne ne le sait. Ce qui a changé par rapport à 2008, c'est déjà l'ampleur du plan de relance, de stabilisation. Le plan de relance de Barack Obama en 2011 était à 800 milliards. Là, on en est à 2000 milliards. Et tout le monde sait déjà que ce ne sera pas suffisant. Est-ce que les banques sont plus solides, plus encadrées qu'en 2008? Ce n'est pas certain. La crise actuelle, elle est d'une bien plus grande ampleur que celle de 2008. Et je crois que ce n'est pas exagéré d'y voir une crise aussi profonde, quoique différente, que celle de 1929.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. La question des cornabons, de nouveau examinée aujourd'hui par les ministres européens des Finances. Ils se retrouvent aujourd'hui lors d'une vidéoconférence. Mais cette solution avancée par l'Italie, l'Espagne et la France n'a que peu de chances d'aboutir. En revanche, la réponse européenne à la crise devrait s'articuler autour de trois axes. Des prêts, du fonds de secours de la zone euro, un fonds de garantie pour les entreprises et un soutien au chômage partiel. Un compromis devrait être trouvé pour éviter une crise politique à la crise sanitaire et économique. Endiguer l'épidémie de Covid-19 et anticiper, surtout, ne s'avère pas simple. Exemple en Côte d'Ivoire, où hier des affrontements ont eu lieu dans le quartier populaire de Yopungo, à Abidjan, des heurts entre les forces de l'ordre et des habitants qui refusent la construction d'un centre de dépistage du coronavirus. À l'origine de ces manifestations, une fausse rumeur. Le récit à Abidjan d'Amandine Rayo.
Dans la nuit de dimanche à lundi, des manifestants bravent le couvre-feu. Ils s'en prennent violemment au chantier d'un centre de dépistage. Les manifestations reprennent dans la journée au détriment de la distanciation sociale. Plusieurs centaines de personnes protestent. Selon une rumeur, le gouvernement voudrait transférer des malades du coronavirus dans ce quartier très peuplé et acquis à la cause de l'ancien président Laurent Gbagbo. La police tire des grenades lacrymogènes et démantèle des barrages sur la route. 12 personnes sont arrêtées. Le préfet d'Abidjan se rend sur place pour démentir la rumeur. À la télévision nationale, le directeur général de la santé, Mamadou Samba, reconnaît une erreur de communication.
Peut-être que nous avons manqué un peu de pédagogie, mais il y a une différence entre un centre de prise en charge et un centre de prélèvement. Le centre qui est prévu, il a pour objet de rapprocher les services de santé des populations pour savoir si les populations sont infectées ou pas. Ce n'est pas de la prise en charge. Les personnes qui sont là-bas sont des personnes saines qui vont voir leur état de santé, pour voir leur situation.
Ces incidents violents liés à la pandémie sont une première en Côte d'Ivoire. Pour le moment, le pays compte 323 cas, dont 3 décès. Le ministre de la Défense a annoncé hier être infecté. Amandine Réau, Abidjan, Radio Vatican.
Les talibans suspendent les discussions menées depuis 8 jours avec le gouvernement afghan. Ils les jugent stériles. Elles portaient sur un échange de prisonniers, condition préalable à tout accord politique. Kaboul avait donné sa permission à la libération à terme de plusieurs milliers de prisonniers talibans. Le point d'achoppement semble être le sort d'une quinzaine de commandants de haut rang des talibans. Pas facile de vivre la semaine sainte pour les catholiques à cause du Covid-19. C'est le cas à Hong Kong, où la population n'est certes pas confinée, mais n'a pas la possibilité de se réunir lors de célébrations religieuses. Les prêtres du territoire autonome regorgent d'initiatives pour maintenir cependant le contact et partager les cérémonies de cette semaine, comme nous le raconte le père Nicolas de Franqueville des Missions étrangères de Paris.
On a décidé de faire des retransmissions en Facebook Live des différentes cérémonies de la Semaine Sainte. Et puis en même temps, de laisser l'église ouverte en proposant une adoration du Saint-Sacrement le jeudi saint, une adoration de la croix le vendredi, le cierge pascal qui sera allumé dans l'église à partir du samedi soir et tout le dimanche. Donc voilà, il y a quelques signes concrets pour permettre aux fidèles qui viendront prier par eux-mêmes dans l'église d'être soutenus dans leur prière. Mais on peut pas organiser de prière collective. Donc ça, on prépare ça à la fois sur internet et puis en essayant de rendre l'église accueillante pour toutes les personnes qui souhaitent venir. Voilà. En se rendant disponible aussi pour le sacrement de réconciliation, parce que à Hong Kong, il y a vraiment cette habitude qui est prise, c'est que tous les chrétiens minimum 2 fois par an viennent rencontrer le prêtre pour le sacrement de réconciliation. Donc là, il y a cette possibilité qui est encore laissée à Hong Kong, et donc en fait on se rend disponible moi depuis déjà pas mal de temps. Là, en soirée, je suis assez disponible pour les confessions et il y aura d'autant plus de monde qui viendront demander le sacrement.
Le père de Franqueville joint à Hong Kong, il est en charge de la paroisse Holy Redeemer Church. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin à 8h30, heure de Rome. D'ici là, notre site internet www.vaticannews.va ainsi que notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.